Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 5h30, temps universel, ici Washington, la voix de l'Amérique, Camille Grodidier avec vous, en compagnie d'Anne Arbetson. Bonjour Anne.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Le secrétaire général de l'ONU dénonce la recrudescence de la violence en République centrafricaine. Épidémie d'Ebola en Guinée, la riposte s'organise, affirme le docteur Rémi Lama, le ministre guinéen de la Santé.
Pour le moment, la réponse est bien organisée et on a l'espoir. Vous savez, c'est une première au niveau de la sous-région. On n'a pas connu. On est en train de mettre en contribution tout ce qui a l'expertise pour pouvoir nous aider vraiment à endiguer l'épidémie.
Le ministre des Enseignements secondaires du Cameroun, Louis Bapès-Bapès, sous les verrous en rapport avec une affaire de corruption.
Le ministre Bapès-Bapès a été effectivement arrêté en début d'après-midi à Guinée et a été transféré à la prison centrale de Codengui. Après un passage devant le tribunal criminel spécial.
Et puis le secrétaire d'État américain John Kerry est de retour au Moyen-Orient pour tenter de sauver les négociations de paix israélo-palestinienne. Mais tout d'abord, le journal sur la voie de l'Amérique. Le secrétaire général de l'ONU se dit préoccupé par la recrudescence de la violence en République centrafricaine. Dans une déclaration, Ban Ki-moon a condamné tous les actes de violence perpétrés contre la population civile et contre les forces internationales qui s'efforcent de rétablir la paix et l'ordre en RCA. Il a souligné aussi l'importance de dresser rapidement une liste d'individus qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité dans le pays, tel que l'exige le Conseil de sécurité. Ces gens, a-t-il dit, seront tenus responsables de leurs actes et traduits en justice.
La tension reste vive à Bangui, où des soldats tchadiens venus rapatrier leurs compatriotes fuyant les violences en Centrafrique ont tiré sur la population samedi. Le bilan reste à confirmer, mais selon les médias, une vingtaine de personnes ont été tuées et une centaine blessées, malgré les efforts des forces internationales pour arrêter les tueries.
La Guinée fait face à une épidémie sans précédent de fièvre Ebola, selon Médecins sans frontières. Lundi, l'ONG a dit que 13 échantillons ont été testés positivement pour le virus de l'Ebola, une fièvre hémorragique virale extrêmement contagieuse et mortelle. Par ailleurs, le ministre guinéen de la Santé, le docteur Rémi Lama, a lui évoqué dans la soirée 22 cas positifs.
D'autres échantillons sont en cours d'analyse, a précisé MSF dans un communiqué. Des cas suspects ont également été repérés dans les pays voisins de Sierra Leone et du Liberia, mais aucun n'a encore été confirmé en laboratoire. Le dernier bilan officiel du ministère de la Santé guinéen fait état de 122 cas suspects, dont 78 décès.
Les autorités sont engagées dans une course contre la montre. Pour empêcher la propagation de l'épidémie, le personnel sanitaire se concentre sur la recherche de cas de contact. Les personnes qui ont été en relation directe avec les patients atteints d'Ebola et qui auraient pu contracter la maladie.
En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, le principal parti d'opposition, a décidé de prendre toutes les dispositions en vue de l'organisation d'actions d'envergure, allant des sit-ins aux opérations villes mortes, en passant par des marches sur toute l'étendue du territoire national. Il maintient également le boycott du recensement lancé par le gouvernement du président Alassane Ouattara. On écoute le président du FPI, Pascal Afine-Guessant.
Les manifestations, c'est dans une deuxième étape. Nous sommes dans une logique de riposte graduée. Donc pour le moment, ce qu'il faut que l'opinion retienne, c'est d'abord le boycott du recensement général de la population, le boycott des auditions de la CDVR et la reconstitution d'un processus de réconciliation nationale crédible à travers l'Organisation des États généraux de la République que nous revendiquons, la démission du ministre Ahmed Bakayoko, comme je l'ai indiqué. Voilà ce qui est à l'ordre du jour à l'heure actuelle.
La réaction du parti au pouvoir fut immédiate, rappelant le passif de la dernière crise électorale qu'il impute au FPI. Joël Nguessan, porte-parole du RDR, met en garde.
La politique de la marche, des sit-ins et des violences, c'est quelque chose qui est nuisible à l'image non seulement de notre pays, mais c'est nuisible aux populations ivoiriennes. C'est la raison pour laquelle, quand ils ont décidé, lors de leur comité central, de reprendre ces actions de sabotage de la cohésion sociale, nous, au niveau du RDR, nous leur disons une chose. Un, on ne tolérera pas qu'ils créent la chienlit en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, nous disons que les nombreuses victimes, de part et d'autre, en ont marre de cette politique de la violence.
Le gouvernement Ouattara estime que ce recensement est essentiel pour appuyer le développement.
Fermeture officielle lundi du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Sierra Leone. Vu les progrès réels dans le pays, le Conseil de sécurité de l'ONU avait décidé à l'unanimité en 2013 que la mission de paix en Sierra Leone se retirerait à la fin mars 2014. Lors d'une visite à Freetown début mars, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, avait estimé que la Sierra Leone est l'un des exemples les plus réussis d'une période d'après-guerre.
Au Kenya, 3 explosions à Nairobi, la capitale, ont coûté la vie à au moins 6 personnes et fait une 20aine de blessés, selon les autorités kenyanes. Les explosions se sont produites lundi soir dans un quartier à forte population somalienne. Elles n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat. La milice somalienne des Shebab a longtemps menacé de mener des attaques au Kenya si Nairobi ne retire pas ses troupes du sud de la Somalie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé lundi en Israël dans le cadre d'un nouvel effort visant à empêcher l'échec des pourparlers de paix avec les Palestiniens. C'est la deuxième visite de M. Kerry dans la région en moins d'une semaine. Il s'est entretenu la semaine dernière en Jordanie avec le président palestinien Mahmoud Abbas.
Tous les continents et les océans de la planète se ressentent du changement climatique et les gouvernements doivent agir. C'est en substance le message contenu dans le rapport du groupe intergouvernemental d'experts de l'ONU sur l'évolution du climat, publié lundi. Jacques Aristide.
Diagnostic effrayant, même s'il n'est pas nouveau, les impacts déjà observables du changement climatique sur la planète Terre sont énormes, mais les humains ne sont pas encore prêts à y faire face. Les scientifiques onusiens égrènent ces effets un à un, maladies, inondations, sécheresses, pénuries alimentaires, risques de conflits, migrations entre autres. Les populations et les systèmes naturels sont déjà vulnérables, affirme Chris Field, vice-président du GIEC.
Ce qui est le plus important dans ce rapport, c'est que nous ne sommes plus à l'époque où le changement climatique est une sorte de futur lointain. Nous vivons un monde où les changements climatiques ont déjà opéré et ont des impacts fréquents et conséquents. Nous constatons ces incidences depuis les pôles à l'équateur et des côtes aux montagnes.
La Russie affirme avoir retiré l'un des bataillons qu'elle amassait à la frontière avec l'Ukraine, alors même que le Premier ministre Dmitri Medvedev se rendait dans la péninsule de Crimée, nouvellement annexée. Des responsables russes et ukrainiens ont reconnu que certaines unités se sont retirées de la frontière. Washington chiffre à 40 000 le nombre de soldats déployés par la Russie le long de la frontière avec l'Ukraine.
Entre-temps, M. Medvedev a donc conduit une délégation de ministres en Crimée et promis une aide économique. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a remis une note de protestation à la Russie à cette occasion, cette visite n'étant pas autorisée par Kiev.
Au Pakistan, l'ancien président Pervez Musharraf a été inculpé pour haute trahison par un tribunal spécial d'Islamabad. Il a plaidé non coupable.
L'ex-chef de l'armée fait face à 5 chefs d'accusation, une décision historique dans un pays où les militaires ont toujours dominé le pouvoir civil. S'il est reconnu coupable, il risque la peine de mort. Musharraf a dirigé le Pakistan de 1999 à 2008.
Washington a fustigé le dernier tir d'artillerie de la Corée du Nord vers les eaux sud-coréennes, apparemment en réponse aux manœuvres militaires en cours entre la Corée du Sud et les États-Unis. Ces tirs sont dangereux et doivent cesser, a dit le secrétaire américain à la Défense Chuck Hagel.
Enfin, ici aux États-Unis, le bilan de l'éboulement de terrain dans l'État de Washington est maintenant de 24 morts, alors que plus de 24 autres personnes sont toujours portées disparues. Les 8 blessés secourus peu après la tragédie ont survécu.
Merci Anne, on vous retrouve en fin d'émission au micro Camille Grosdidier pour Le Monde Aujourd'hui. En République centrafricaine, le général Martin Tumenta Chomou, commandant de la force africaine, a assuré que les soldats tchadiens de la MISCA n'ont fait que riposter samedi à une attaque des anti-Balaka dans les quartiers Pekadouce et Gobongo. Il y a eu au moins 24 morts. Face aux exactions attribuées aux miliciens anti-Balaka, beaucoup de musulmans se sont réfugiés à la mosquée centrale de Bangui ou bien se terrent dans leur maison au quartier kilomètre 5. Pour une réaction, Idriss Fall a joint le général Mohamed Moussa Dafan, président de la Convention des Patriotes pour le salut du Codro et deuxième vice-président de l'ex-coalition Séléka.
D'abord, je condamne. Je condamne fermement toute forme d'exaction contre une communauté, que ce soit musulmane ou chrétienne ou autre. Et il se trouve que dans le cas d'espèce, c'est contre des musulmans. Et ça, c'est condamnable. Je ne peux pas accepter cela.
Maintenant, que font les Séléka?
Les Séléka, ils respectent les instructions données, puisqu'il y a une résolution des Nations Unies. Nous sommes quand même assez légalistes. Il y a des forces internationales qui sont là en Centrafrique pour faire ce travail. On ne va pas faire le travail à leur place.
Mais vous avez vu, ce samedi, les forces tchadiennes ont été déjà prises à partie et ça a fait des morts dans le nord de Bangui aussi.
Voilà, et ça c'est très bien, les forces tchadiennes se sont défendues. Et on ne peut pas accepter qu'un groupe de belligérants s'attaque à une force internationale. Ça c'est pas normal. Mais je condamne de toute façon toutes ces formes d'exactions et surtout qu'aujourd'hui les musulmans se retrouvent cantonnés de fait dans le 3e arrondissement de la ville de Bangui. Il y en a qui sont à Boda et ceux qui sont à Boda aujourd'hui sont affamés. On est en train de les affamer. On refuse de leur vendre de la nourriture. Et vous voyez qu'il y a 3 jours déjà, les gens m'appellent déjà de là-bas qu'il y a 3 jours, ils n'ont pas mangé. Et ça, c'est très dangereux humanitairement.
On a aussi entendu des voix qui s'élèvent pour parler de risque de partition.
C'est une réalité. Il y a une frange assez importante de la population du Nord-Est qui demande la partition du pays. Mais moi, personnellement, l'équipe qui travaille avec moi, nous sommes contre la partition du pays. Nous préférons que le pays reste entier, mais que les problèmes soient réglés et que nous soyons reconnus comme une minorité existante de la nation centrafricaine et qu'on trouve une sortie de crise.
Et vous pensez que c'est la volonté des milices anti-Balaka?
Je ne sais pas, il faut leur demander à eux, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ne veulent plus entendre parler de musulmans en République centrafricaine et qu'ils veulent en finir avec la communauté musulmane. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qu'il faut faire parce qu'on est engagé et il faut qu'on fasse ce travail-là. C'est notre pays, c'est notre sol, le sol de nos ancêtres. On ne peut pas nous chasser de notre terre.
Le général Mohamed Moussa Dafan, deuxième vice-président de l'ex-coalition Séléka.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Il est 5h43, temps universel. Camille Grosdidier pour Le Monde aujourd'hui. À présent, on enchaîne avec les témoignages de la rubrique 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo.
Mirugi Nestor, citoyen journaliste à Voix de l'Amérique à Kisangani. L'installation d'une antenne des réseaux de communication cellulaire à Ango, chef-lieu du territoire portant le même nom à près de 400 km de Kisangani, va contribuer à la sécurisation de la population de ce territoire et à son désenclavement, a déclaré l'ambassadeur des États-Unis en RDC, James Swan, lors de son récent séjour à Kisangani. Selon le diplomate américain, cette antenne de communication cellulaire, financée par les États-Unis d'Amérique via l'USAID, permettra désormais à la population non seulement de mieux communiquer avec d'autres coins du pays, mais aussi de réduire les risques et menaces des rebelles ougandais de la LRA et les éleveurs étrangers Mororo, originaires du Tchad et de la RCA, auteurs de plusieurs exactions sur la population locale. James Swan a en outre indiqué que les États-Unis comptent renforcer les programmes de la lutte contre le VIH-Sida en RDC.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Camille Grosdidier avec vous. Un autre ministre camerounais est sous les verrous. Il s'agit de celui des enseignements secondaires, Louis Bapès-Bapès. Il a été conduit hier à la célèbre prison de Nkondengi à Yaoundé après une garde à vue dans les locaux du tribunal criminel spécial. Cette juridiction d'exception est chargée d'examiner les cas de détournement de deniers publics d'un montant minimum de 50 millions de francs CFA. Pour des précisions sur le cas du ministre, Timothée Donangma est adjoint à Yaoundé, Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie.
Le ministre
Papès a été effectivement arrêté en début d'après-midi à Guinée et a été transféré à la prison centrale de Codengui. Après, il passa devant le tribunal criminel spécial. Il faut noter quand même que c'est la deuxième fois au Cameroun où un ministre en fonction est comme ça arrêté et mis immédiatement sous mandat de dépôt. Après le cas Siam Sirou et dans une certaine mesure celui de l'ancien ministre de la Santé.
Est-ce la procédure normale pour l'arrestation d'un ministre en fonction?
Je crois que du point de vue juridique, il y a quand même quelques questionnements qui devraient pouvoir être posés. À la réalité, il nous semble très très crédible sur le plan juridique qu'il lui était indiqué pour M. Biapol d'obtenir d'abord sa démission ou de le démissionner et ensuite de laisser la justice faire son travail, c'est-à-dire éventuellement l'inculper. Mais comme au Cameroun, le droit est de temps en temps et même régulièrement piétiné. On l'a vu pour Siam Sirou, ça n'a pas fait de problème. Pour Hubert Olanguena ou non, du certain des yeux, ça n'a pas fait de problème. Et pour ce ministre, ce n'est qu'une suite logique dans le cadre d'un État qui se donne des libertés comme ça, avec les droits des citoyens.
Selon certains, on s'attendait à cette interpellation dans la mesure où d'autres proches collaborateurs de ce ministre avaient déjà été interpellés pour des affaires de corruption.
Nous venons de dire, on n'enlève rien au fait qu'effectivement, le ministre Mbappès, comme beaucoup d'autres ministres, même en fonction, ont des soucis à se faire par rapport à l'usage qu'ils ont fait des fonds publics ou justement des signatures qui leur ont été données. Je crois que M. Biapol, dans sa logique, a fait aménager de nouvelles cellules pour accueillir ses collaborateurs. Donc, pour le cas Mbappès, l'enquête d'interrogation et d'arrestation qu'il y a eu dans ce ministère laissait effectivement présager que le ministre pouvait être concerné. Mais simplement, comme nous le disons, il fallait que les règles de droit de manière claire soient respectées, encore que ça n'est pas le seul ministre, ils sont nombreux au cadre du gouvernement qui devraient pouvoir avoir quelques soucis avec la justice.
C'est l'opération anticorruption Épervier qui semble ainsi relancée au Cameroun.
Oui, en fait, c'est ce qu'on a appelé pompeusement opération anticorruption, qui est appelée opération Épervier, mais nous autres, dans la société civile, nous estimons de manière claire que le régime de M. Biapol ne fait pas une opération anticorruption. Le régime ne peut pas lutter contre la corruption parce qu'il est adossé lui-même sur la corruption. Ils sont des centaines de milliers de Camerounais qui officiellement distraient l'argent de l'État. Donc choisir quelques-uns de temps en temps et les arrêter n'est pas de nature à pouvoir endiguer la corruption qui est déjà devenue institutionnelle au Cameroun.
Monsieur Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la Société civile pour la démocratie, il était joint à Yaoundé.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Nimbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Camille Grodidi avec vous sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Il est 5h48, temps universel. Le docteur Rémi Lama, le ministre guinéen de la Santé, affirme dans une interview avec la VOA ce matin que la riposte s'organise bien contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Des laboratoires ambulants sont installés dans la capitale Conakry et dans les préfectures touchées par l'épidémie. Il a insisté sur la sensibilisation des populations. On écoute donc le docteur Rémi Lama au micro de Georges Léonard Sagno.
Pour le moment, la réponse est bien organisée et on a l'espoir. Vous savez, c'est une première au niveau de la sous-région. On n'a pas connu. On est en train de mettre en contribution tout ce qui est l'expertise pour pouvoir nous aider vraiment à endiguer l'épidémie. Et aujourd'hui, j'avoue, à l'intérieur du pays, pour le moment, il n'y a pas de nouveaux cas. Sauf quelques cas isolés à Conakry qu'on est en train de gérer. Et vous savez, ce n'est pas facile. C'est la capitale. Donc, les cas qui sont sous la main, nous essayons de faire ce qu'on appelle le circuit thérapeutique parce qu'il y en a parmi eux qui ont transité dans des cliniques privées avant d'être reçus au centre hospitalier universitaire. On est en train de remonter toutes ces pour pouvoir atteindre ces différents contacts et afin de rompre la chaîne de contamination.
On a combien de cas enregistrés et combien de décès, monsieur le ministre?
Par rapport aux examens biologiques, sur 55 cas examinés, il y a eu en tout et pour tout 22 cas positifs en date. Les autres examens vont être confirmés dans les jours à venir. On a déjà un laboratoire mobile qui est sur place.
Combien de préfectures en dehors de Macenta et Guéguédou et la région spéciale de Conakry, combien d'autres préfectures auraient été affectées par le virus Ebola?
À part la région de Kissidougou, Guéguédou, Macenta, également, il y a eu un cas à Dabola. Là, il s'agissait d'un commerçant qui est venu à Conakry, où il a développé ses signes. Il a été reçu à l'hôpital de Kipé et il en est mort. Donc, le corps a été transféré à Dabola pour l'inhumation. Au transfert de son corps, il a été accompagné par trois de ses frères. Après, ses frères sont revenus à Conakry et il y a un parmi eux qui a développé les mêmes signes. Il est allé à l'hôpital pour une consultation. Et là, il a expliqué. Les médecins se sont intéressés à son parcours. Automatiquement, on l'a mis en quarantaine et les médecins sont allés à leur domicile pour voir les différents contacts qu'ont eu ces différents membres de la famille. L'équipe s'est rendue là, ils ont désinfecté les lieux et ils ont été tous transportés à l'hôpital Ronka, où on a mis en place un centre de traitement, en date, ils sont aujourd'hui en isolement. Et tous les médecins qui ont pris contact avec eux sont également mis sous surveillance à Kipi pour attendre les 21 jours. Il y a un autre cas qui a également développé la même symptomatologie, qui est décédé à Conakry, et le corps a été envoyé à l'abbé pour l'enterrement. Vous savez, les gens, ils ont fait cette culture-là, souvent d'envoyer les corps vers les villages. Arrivé à l'abbé, le corps était dans le cercueil, ils l'ont enlevé dans le cercueil, il a été inhumé comme leur coutume le recommande. Donc voilà, le corps a été manipulé. Mais heureusement, tous ces contacts ont été identifiés et les équipes sont allées vers ces différentes préfectures pour procéder vraiment à la désinfection et à la mise en quarantaine de ces différents contacts. Tout ça pour rompre cette chaîne de contamination. C'est ce qui est aujourd'hui l'une des voies les plus sûres pour pouvoir endiguer cette épidémie.
On écoutait le ministre guinéen de la Santé, le docteur Rémi Lama.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui, au micro Camille Grosdidier. Le premier ministre malien Oumar Tatam Ly a participé lundi à une cérémonie à Baïwani Ségou, en présence du chef de la délégation de l'Union européenne au Mali, Richard Zinc, du ministre malien du développement rural et des responsables de l'Office du Niger. Cette cérémonie concernait un projet d'irrigation et de reboisement soutenu par l'Union européenne. On écoute Kassim Traoré.
Mbewani, la benjamine des zones de l'Office du Niger, accueille la cérémonie de réception de 2500 hectares de périmètre irrigué aménagés grâce à l'Union européenne. Cheikh Kamisoko, chef des infrastructures à l'Union européenne.
Le premier objectif, c'est d'augmenter la superficie aménagée. Deuxièmement, c'est améliorer la maîtrise de la technique de production, la gestion financière en matière d'entretien de réseaux d'irrigation. Il y a aussi la gestion de l'eau.
En plus, il y aura le lancement du projet de reboisement qui concerne pour le moment 1000 hectares.
Ces zones qui seront reboisées, ce sont des zones qui ne sont pas aptes donc à la culture. Donc, c'est les zones où l'eau ne peut pas dominer et il y a des zones d'emprunt, et etc. Donc on va essayer de les reboiser pour un coût total d'environ 1 milliard de francs CFA.
En finançant ces projets, l'Union européenne veut créer des emplois à haute intensité de main-d'œuvre plus proches des populations concernées par le secteur agricole. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le secrétaire d'État américain est de retour en Israël. John Kerry tente de persuader le premier ministre israélien de poursuivre les négociations de paix avec les Palestiniens. Celles-ci sont menacées par la réticence de Benjamin Netanyahou à libérer un nouveau groupe de prisonniers. Timothée Donangmai.
C'est la seconde fois en moins d'une semaine que le secrétaire d'État Kerry séjourne dans la région dans l'espoir de remettre à flot le processus de paix israélo-palestinien. Les Israéliens exigent une prolongation de ces discussions comme condition de libération d'autres prisonniers, estimant qu'une fois ces prisonniers libres, les Palestiniens n'auraient plus aucun intérêt à discuter. Les Palestiniens menacent de leur côté de tout arrêter si Israël refuse de libérer ses prisonniers, parmi lesquels des Arabes israéliens incarcérés avant l'accord de paix d'Oslo de 1993. Comme par le passé, le secrétaire d'État Kerry s'est refusé à discuter publiquement les efforts des États-Unis en vue de sortir les deux camps de cette impasse. Je pense qu'il serait inapproprié de passer un quelconque jugement sur ce qui pourrait arriver ou pas, parce qu'il s'agit d'une question entre les Palestiniens et les Israéliens, et ce que le Premier ministre Netanyahou est prêt à faire, a expliqué le chef de la diplomatie américaine hier à Tel Aviv.
On enchaîne avec l'Expo. Présentation Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille.
En football, c'est ce mardi qu'aura lieu au Caire le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions.
On connaît déjà le nom des 8 équipes qualifiées. Grosse sensation puisque le club égyptien double tenant du titre, Al Ahly, a été éliminé par le Ahly de Benghazi. Et puis les Congolais et les Tunisiens ont le sourire. Le tout-puissant Mazembe de justesse l'a emporté 1-0 à Lubumbashi devant le CO Espoir. Suffisant grâce au but marqué à l'extérieur lors de la défaite 2-1 à San Pedro. Et puis l'AS Vita Club qui s'incline 2-0 en Afrique du Sud sur le terrain des Kaizer Chiefs. Suffisant aussi pour accéder à la phase de poule, puisque le Vita Club l'avait emporté 3-0 à Kinshasa. Satisfaction aussi chez les Tunisiens. Le CS Sfaxien, sans problème, élimine le Oroya AC de Guinée 2-0. Et puis carton de l'Espérance sportive de Tunis, qui bat à domicile 3-0 la AS Real de Bamako. Deux autres clubs francophones ont tiré leur révérence. Le Coton Sport de Garoua, de nouveau battu au Cameroun, 1-0 par Sétif. Et puis le match nul 0-0 au Soudan n'a pas suffi pour Dolizy, qui avait concédé le match nul un partout à l'aller. Écoutons Patrick Ossems, l'entraîneur de Dolizy.
Finalement, nous sommes éliminés de cette Ligue des Champions sans avoir perdu, puisque bon, on a fait un partout à l'aller, 0-0 au retour. Et je dirais que c'est d'autant plus cruel. Hier, on fait un match très constant où on est nettement supérieur à l'adversaire, aussi bien sur le plan technique, physique que tactique. Mais malheureusement, il nous a manqué ce petit but. Malgré des opportunités, on n'a pas eu l'efficacité qu'il fallait pour nous permettre de passer ce tour.
C'était Patrick Ossems, l'entraîneur de Dolizy.
Il y a aussi le début des quarts de finale de la Ligue des Champions.
Oui, Manchester United affronte le tenant du titre, le Bayern de Munich. Et puis on aura le droit également au choc espagnol entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Et je vous rappelle que touché à la cuisse droite, Samuel Eto'o devrait très probablement déclarer forfait pour le quart de finale aller de Chelsea face au Paris Saint-Germain. Ce sera demain au Parc des Princes. Enfin, Camille, je vous laisse donner quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Eh bien, en NBA, une défaite honorable pour Milwaukee face à Detroit sur le score de 116 à 111. Sacramento très à l'aise face à la Nouvelle-Orléans battue 102-97. Victoire facile également pour les Los Angeles Clippers face à Minnesota avec 114-104. 10 points d'avance également pour Miami face à Toronto 93-83. Chicago fait encore mieux devant Boston expédié par 94-80 et San Antonio écrase Indiana 103-77, tandis que Washington s'incline devant Charlotte par 194. Camille Grodidi avec vous et pour notre segment musical, nous accueillons Roger Muntu. Bonjour Roger.
Salut Camille. Alors parlons avenir du CD. Je suis un grand collectionneur de CD ou compact disques. Durant les 15 dernières années, j'en ai acheté des milliers alors des CD. Maintenant, mes découvertes, je les fais sur iTunes. Camille en direct de Paris, l'artiste musicien Keisha nous a accordé une interview téléphonique. Il nous dit pourquoi lui, il produit rarement des CD. On écoute Keisha.
Je sors 5 titres tous les 2-3 mois. J'ai pas de calendrier. Moi, quand je suis inspiré, que j'ai envie de sortir quelque chose, je sors.
En fait, c'est deux choses qui sont très différentes. Avant, on faisait des CD. Et quand on faisait des CD, on avait 74 minutes. Et moi, j'avais envie de remplir les 74. Ça crée une frustration. Quand tu fais 20 chansons, il n'y a que les fans hardcore qui vont vraiment écouter les 20. Faut vraiment apprécier, prendre le temps. Très souvent, les gens s'arrêtent sur 3-4 chansons. Genre, tout le monde va écouter Keisha, on dit quoi, Love de toi. Et puis, y a des chansons obscures, là, ça va intéresser personne. Donc, et puis, ça met 2 ans à faire un album, alors que pour faire 5 titres, je peux faire ça en 2 semaines. Comme ça, les gens sont concentrés sur les 5 que je leur donne, ils apprécient. Bon, aujourd'hui, c'est iTunes, YouTube, donc c'est un business qui est complètement différent, donc on s'adapte.
C'était Si tu veux de moi, Keisha. Merci Roger.
Bonne journée Camille.
Roger Muntu, que vous retrouvez chaque jour à 20h, temps universel.
Je reste là, à attendre je ne sais quoi. Pas même un geste de toi.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du Monde Aujourd'hui au micro Camille Grosdidier sur la Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir accompagnés ce matin et une très bonne journée et encore merci à Anne Albertson.
Je cherche ton regard dans ses caresses, dans la nuit, c'est à toi que je...